Chapitre 74. Saga pénètre dans la chambre meublée d'un lit, d'un bureau et d'un fauteuil. Quelques billes d'argile sont tombées du grand pot d'un palmier. Devant la fenêtre donnant sur l'allée piétonne, une femme mince est en train de tripoter un petit joint en caoutchouc gris qui pointe entre le châssis et l'appui de la fenêtre. À l'extérieur s'étend une bande d'herbe. Saga aperçoit aussi un banc à côté d'un grand rhododendron. Grace, dit Saga doucement, et elle attend que la femme se retourne. Je m'appelle Saga Bauer. Je viens de Suède. Je ne me sens pas en forme, répond la femme d'une voix faible. Vous aimez les biscuits? J'ai acheté des rêves à l'aéroport, vous savez, les Dream Cookies suédois. Grace passe une main nerveuse sur sa joue et se retourne vers Saga. Les années l'ont cruellement malmenée, emportant la jeune fille pour ne laisser qu'une vieille femme. Ses cheveux gris sont rassemblés en une mince tresse qui tombe sur son épaule frêle. Son visage est maigre et ridé, et elle porte une prothèse oculaire dépourvue d'expression. « Il y a une machine à café dans la salle de séjour, » dit-elle faiblement. Elle s'installe avec leur tasse de café dans les fauteuils autour de la petite table ronde. Saga tend l'assiette de biscuits à Grace, qui la remercie et en prend un. « Il y a beaucoup de personnes d'origine suédoise à Chicago, » dit Grace en tripotant son tricot gris. « La plupart se sont retrouvées à Andersonville. À une époque, il y avait plus de Suédois ici qu'à Göteborg. J'ai lu ça quelque part. La grand-mère maternelle de mon père venait du Halland. Elle s'appelait Selma. Elle est arrivée ici en 1912 pour être boniche. « Et vous parliez suédois ?» dit Saga pour la faire continuer à parler. « Papa allait souvent en Suède et il a fini par être nommé attaché de défense à Stockholm, » raconte-t-elle avec un soupçon de fierté. « Attaché de défense ?» répète Saga. « C'est une histoire de tradition. Vous savez, les relations diplomatiques entre la Suède et les États-Unis ont commencé avec Benjamin Franklin et le ministre des Affaires étrangères suédois. Je l'ignorais. Papa était très loyal envers l'ambassadeur, déclare Grace en posant sa tasse. Vous avez habité en Suède? J'adorais les nuits d'été. La manche de son tricot glisse quand elle fait un geste vers le plafond, et Saga remarque que son bras mince est zébré de fines cicatrices blanches qui évoque des arêtes de poisson. Vous fréquentiez un lycée près de Stockholm, le meilleur qu'on puisse trouver. Elle se tait et laisse ses mains délicates retomber sur ses genoux. Saga pense au fait que le père est resté en Suède durant tout le mandat de l'ambassadeur Lyndon White Holland, alors que sa fille était retournée à Chicago. « Mais vous êtes revenu aux États-Unis après seulement 2 ans, » fait-elle remarquer. Grace sursaute et lance un rapide coup d'œil à Saga. « Ah bon, j'ai fait ça? J'avais peut-être le mal du pays. » « Alors que vos parents sont restés en Suède ?» Papa venait de prendre son poste. « Mais avant de revenir ici, vous faisiez partie d'un club au lycée de Ludwigsberg, » dit Saga calmement. Les membres avaient l'habitude de se retrouver dans un pavillon qu'ils appelaient le terrier de lapin. Le visage raviné de Grace tressaille. « Un nom idiot, c'est tout, » murmure-t-elle. C'était un club distingué pour les familles distinguées, tente Saga. Ça y est, je sais de quoi vous parlez. J'avais un nouveau petit ami qui m'avait emmené au pavillon Krusebjörn. C'était ça, le vrai nom. Je n'avais que 18 ans, j'étais une vraie bécasse, une fille sage de Chicago qui avait fréquenté l'église suédoise luthérienne tous les dimanches. Jamais je n'aurais imaginé oser sortir avec un garçon avant de venir en Suède. Elle commence à respirer lourdement, cherche maladroitement ses médicaments dans sa poche et sort un flacon blanc au couvercle rouge, mais fait tomber les comprimés par terre. « Alors vous connaissez les membres de ce club ?»«
C'était comme des vedettes de cinéma, et ils m'ont admise. Rien que ça, j'existais à leurs yeux. J'avais l'impression d'être Cendrillon. »
Grace prend les comprimés que Saga a ramassés, la remercie à voix basse et en avale un sans eau. « Comment s'appelait votre petite amie ?»«
Petite amie n'est pas le mot qui convient, mais... » « C'était il y a si longtemps, » réplique-t-elle.
« Vous avez l'air troublé ?»«
Oui, »
chuchote Grace, puis elle se tait de nouveau. « Un petit ami, ce n'est pas forcément quelqu'un de gentil, » avance Saga, et elle essaie de croiser le regard de Grace.
« Quand j'ai compris qu'il avait mis quelque chose dans mon verre, il était déjà trop tard. » J'avais mal au cœur, j'ai essayé de rejoindre la porte. Je me souviens de leurs visages vides. Ils me dévisageaient tous. La pièce tournoyait. J'ai été obligé de me mettre à genoux pour ne pas tomber. J'essayais de leur dire que je voulais rentrer chez moi.
Grace plaque la main sur sa bouche et regarde droit devant elle.
Ils vous ont fait du mal.
Dit Saga à voix basse en s'efforçant de paraître calme. Grace baisse sa main qui tremble.
« Je ne sais pas. J'étais allongée sur le sol, »
poursuit-elle d'une voix atone.
« Je n'arrivais pas à bouger. Il me tenait les jambes et les bras pendant que Ville me violait. Je pensais à papa et à maman, à ce que j'allais leur dire. » « Je suis terriblement désolé, »
chuchote Saga en serrant sa main.
« Mais je n'ai jamais rien dit à personne. Je ne pouvais pas raconter que tous les garçons du club m'avaient violé. Ils faisaient la queue, ils se bousculaient. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils m'en voulaient tant. Ils hurlaient, ils me frappaient. »
Elle se tait et tripote les miettes de biscuits sur la table.
« Racontez-moi ce dont vous vous souvenez. » « Je me souviens que j'ai commencé à avoir terriblement mal. Je ne sais plus, je sentais que ça n'allait pas, que j'étais grièvement blessé. Mais ils continuaient sans relâche. Ils soufflaient, grognaient, ils m'embrassaient dans le cou, ils me tiraient par les bras, par les jambes. »
Sa voix disparaît et elle respire plus rapidement.
Ils échangeaient leur place et je voyais le sang sur leurs mains. Je les suppliais encore et encore d'appeler une ambulance. Et comme je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, ils me frappaient au visage avec un cendrier. Ils cassaient une bouteille.
Elle se blottit sur elle-même, haletante.
La dernière chose que je me rappelle, c'est que Teddy enfonçait son pouce dans mon œil. J'ai cru que j'allais mourir, j'aurais dû mourir, mais je me suis simplement évanouie. »
Elle pleure de détresse, convulsivement. Ses épaules sont violemment secouées. Saga ne dit rien, mais elle l'entoure de ses bras et la laisse finir son récit.
« Je me suis réveillée sur le tas de fumier derrière l'écurie. Il m'avait balancé là. C'est celui qui s'occupait des chevaux qui m'a trouvée. C'est lui qui m'a conduite à l'hôpital. »
Saga continue de la serrer fort dans ses bras, jusqu'à ce qu'elle se calme.
« Est-ce que vous vous souvenez de leur nom ?»
Grace essuie ses larmes et regarde ses mains.
« Il y avait Teddy Johnson et... c'était quoi déjà son nom ?»« Kent et Lawrence. » »« Attendez, »
chuchote-t-elle en secouant la tête,
« je connais leur nom à tous. »
« Vous avez mentionné Ville tout à l'heure. Il est devenu ministre des Affaires étrangères en Suède plus tard. »
« Oui. »
« C'était lui, votre petit ami, n'est-ce pas ?» demande Saga.
« Comment ? Non. Mon petit ami s'appelait Rex. J'étais tellement amoureuse de lui. »
« Rex
Alex Müller ?
Saga sent la sueur commencer à couler dans son dos.
C'est lui qui avait tout organisé,
répond Grace, et ses lèvres tremblantes s'étirent en une tentative de sourire.
C'était lui, le pire de tous, tout était de sa faute. Mon Dieu, c'est lui qui m'a fait entrer au terrier de lapin.
Elle se tait, comme si elle n'avait plus de voix tout à coup. Saga observe la femme frêle et se dit qu'elle doit appeler Juna au plus vite.
Et Rex a participé au viol ? Demande-t-elle.
Bien sûr,
répond Grace en fermant les yeux.
Vous vous rappelez d'autres noms ?
Je vais vous les dire,
murmure-t-elle.
Vous avez cité Ville, William Falk donc, Teddy Johnson et Kent.
La porte de la chambre s'ouvre à la volée et deux hommes en costume gris sombre pénètrent dans la pièce.
Special Agent Bauer,
dit l'un d'eux en exhibant une plaque avec l'emblème doré de la police fédérale.